Salut Eric, comment vas-tu?
Ça va très bien toi-même, Dan.
Oui, ça va bien. Le Canadien a gagné, Ben Chiarot a marqué un beau but en prolongation, mais j'ai deux remarques pour le match d'hier, puis tu me diras si je vais trop loin. Je pense que dans notre domaine d'animateur radio, oui, on peut ramener en onde les pointages puis les marqueurs, mais une fois de temps en temps, surtout quand on va sur place voir les événements, ben ça, c'est drôlement payant parce qu'on voit un paquet de choses qui sont pas présentées à la caméra. Hier, je vais m'en tenir à la caméra pour hier parce que j'étais assis dans mon salon puis je regardais le match à la télé comme bien d'autres amateurs qui écoutent mon émission ce soir. Deux choses. D'abord, je vais commencer avec Leskinen, le défenseur du Canadien qui était sur la patinoire avec 6 minutes à jouer et qui a été tassé comme s'il jouait Pee-wee B dans le coin de la patinoire par Brady Tkachuk. Ça a amené au deuxième but des Sénateurs. Là, quand les Sénateurs ont marqué ce but-là, et j'ai vu que Leskinen était là avec 6 minutes à faire, je dis, bon, voilà ma première question pour demain soir quand je vais parler avec Eric. Est-ce que d'avoir Leskinen à 6 minutes de la fin au moment où ton équipe mène 2-1 avec un gardien recrue devant le filet, c'est une erreur de Claude Julien?
Là, c'est facile pour nous, après, quand tu vois que tu t'es fait compter un but, de faire du second guessing. Sauf que ces défenseurs-là, ces sixièmes défenseurs-là qui font chaise musicale présentement avec Canadiens, il faut que tu sois capable de les jouer et de les essayer de temps en temps. Parce que si t'es rendu qu'à 6 minutes, tu peux plus les jouer, ça veut-tu dire qu'après 8 minutes, tu peux plus les jouer? Tu peux pas les jouer en début de période parce qu'ils se font scorer, tu vas reprocher qu'est-ce qu'ils faisaient sur la glace dans les 3 premières minutes. Le vrai problème, c'est que présentement, Canadien, il n'y a pas 6 défenseurs étiquetés Ligue nationale parce que Mété n'est pas là, ce qui fait en sorte que là, il faut que tu en embarques un. J'ai plus de problèmes. Quand tu arrives 2 matchs en 2 soirs, il est certain qu'à un moment donné, présentement, là, Weber, Chariot et compagnie ont terriblement de temps de glace. Petrie est un petit peu moins efficace ces temps-ci, mais il continue à avoir du temps de glace. C'est que malheureusement, tu t'es fait marquer sur cette séquence-là, mais si on les joue pas, on va brûler les autres.
Okay.
Puis il faut que tu prennes des chances puis espérer qu'on ne sera pas scoré. Hier, tu as raison, parce que j'ai eu le même réflexe que toi quand j'ai vu qu'ils se sont fait marquer, égaliser le pointage. Mais au bout de la ligne, quand tu regardes le temps de glace que les 3 premiers ont depuis 5, 6, 7, 8 matchs, mais ça, c'est du temps de jeu, Dan, qui va faire mal rendu au mois de février quand tu vas être dans le dernier sprint final. C'est que tu n'as pas le choix. Le vrai problème, c'est dépêchons-nous d'en trouver un qui peut enlever des minutes aux 3 premiers pour faire en sorte qu'on garde tout le monde frais et dispo puis qu'on se fasse pas mal. Mais au bout de la ligne, hier, pour moi, c'était désolant, c'était plate, c'était de valeur parce que c'était une erreur directe du joueur. T'as raison, il s'est fait tosser de la main comme un pee-wee. C'est tout à fait vrai.
Oui.
Mais ça démontre que ce gars-là est probablement pas prêt à jouer dans la Ligue nationale. Mais présentement, ils en ont pas. Puis on le sait que c'est la lacune qu'ils ont au niveau de la défensive du côté gauche. Mais faut que t'y joues. Si t'es pas capable de jouer à 6 minutes de la fin, ça, c'est inquiétant. C'est que tu vas être obligé de couper le temps de jeu. C'est que pour moi, c'était pas catastrophique. C'était malheureux parce qu'il y a eu un but. Là, c'est sûr, on est tout contents. Il y a eu une victoire au bout de la ligne.
Oui.
Mais il faut de temps en temps qu'il joue des gars, surtout qu'il y a des punitions, puis il y a des gars qui commencent à tirer de la langue. Là.
OK. Et le gars qui a tassé Leskinen du revers de la main, c'est Brady Tkachuk, le frère de Matthew, qui fait tout un travail avec les Flames. Ces deux gars-là sont les fils de Keith qu'on a vus, les plus vieux comme toi et moi, dans la Ligue nationale, jadis avec les Jets de Winnipeg, entre autres. Mais sérieusement, Brady Tkachuk, ce qui est dommage pour le Canadien, c'est qu'il va toujours avoir une comparaison entre Kotkaniemi et Tkachuk parce que le Canadien fait confiance à Kotkaniemi au rang 3 pour avoir un joueur de centre. C'est ce qu'on nous avait vendu à l'époque. Mais Tkachuk, à chaque fois qu'il joue contre le Canadien, je pense pas qu'au fond de lui, il se dit « Ah là, vous auriez dû me repêcher, je vais vous en mettre plein la vue. » Mais à chaque fois qu'il joue contre le Canadien, souviens-toi, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, c'est lui qui a marqué en prolongation au Centre Bell. Il joue tout le temps des bons matchs, puis il ressort un peu la comparaison.
J'ai écouté le match avec mon frère hier, puis j'ai eu exactement le commentaire de dire quelle erreur.
Incroyable.
Quelle erreur. Parce que moi, c'est pas juste quand il joue contre le Canadien. Là, j'écoute souvent un match d'Ottawa. Puis hier, j'ai posé la question. C'est exactement le type de joueur qu'il faudrait qu'il joue avec Domi. T'imagines-tu que Canadien, Domi puis Tkachuk sont le même trio? Comment est-ce que le bleu pourrait être fatiguant? Puis j'avais la réflexion hier de dire, oublions pas une chose, là. Kotkaniemi qui a été repêché 3e, là, s'il n'est pas repêché 3e par Canadien, d'après moi, il glisse 6-7e.
Peut-être 15.
Ben, Ben, t'es plus sévère que moi, là. Moi, je me garde un peu de gêne. C'est quand je vois Kachuk hier, puis qu'il y a une étoile, encore une fois, au Centre Bell, ça me fait mal au cœur, parce que c'est-tu le genre de joueur que t'as la chance de repêcher,
ben oui,
qui a des antécédents familiaux qui font en sorte que tu peux penser qu'il y a de la graine de joueur de Ligue nationale assez élevée quand tu as vu jouer le père et quand tu vois jouer le frère.
Exact.
Qu'au bout de la ligne, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas, mais là, on était obsédés, omnibulés par le fait que ça prenait un centre. Pour une première fois, quand t'es arrivé avec la question d'un troisième choix overall, qu'on dit tout le temps que c'est le meilleur talent disponible qu'il faut prendre, là, il fallait prendre le meilleur joueur de centre disponible. Puis là, écoute ce qui s'est dit depuis le début de l'année, là. À Montréal, on entend souvent parler qu'il y a un surplus de centre. Parce que t'as Dano, il y a Suzuki qui joue pas à sa place, il y a Poehling qui s'en vient, t'as Domi, on le joue-tu au centre? Tu fais quoi, là? C'est même rendu qu'on dit, ça change tellement vite un alignement, là,
trop de
que tu te rends-tu compte que quand t'es troisième overall, là, on serait-tu pas mal mieux de drafter le talent? Puis quand je jouais Kachuk, jouais hier, ben ça me fera mal au cœur en sacrifice. Puis ça m'a amené à la réflexion, je me répète, mais il aurait été drafté où, KK, dans le repêchage,
ouais,
si Canadien le prend pas trois?
Exact.
Mais c'est sûr qu'on va l'avoir. Puis en plus, il joue à Ottawa, Kachuk. Il est même pas dans l'Ouest, où
non,
on ne peut pas jouer souvent.
Non, c'est ça, il est dans ta division, c'est ça.
On l'a dans le face, pas ouais, à peu près. Fait que non, puis il est rendu à 11-12 buts, 11 buts, je pense, là. Excuse-moi, là, mais c'est... Trevor, là, tu es échappé. On se posera pas la question trop longtemps.
OK. Là, je ne me ferai pas d'amis à Sainte-Marie-de-Beauce, OK? Je ne me ferai pas d'amis dans la région de Québec. Mais je veux quand même insister sur le fait qu'en prolongation hier, et si j'étais entraîneur au hockey mineur, je ressortirais, pas l'audio, mais la séquence vidéo du but marqué par Chiarot en prolongation, puis je la présenterais à mes jeunes joueurs qui jouent au hockey mineur dans l'Atome, dans le Pee-Wee, dans le Bantam, et je dirais... Thomas Chabot est le meilleur joueur des Sénateurs. C'est le joueur concession de cette équipe-là. Gros contrat, très habile. Et il fait des points. Ça n'a pas de sens comment il est mobile et tout. Là, je dirais aux jeunes, vous voulez devenir un jour Thomas Chabot? Voici ce qu'il ne faut pas faire. En prolongation, hier, à 3 contre 3, il prend la peine de dire à son chum, occupe-toi du porteur, qui est Max Domi, mais lui, il ne prend pas Chiarot. Cette séquence-là, elle n'est pas une séquence de la trempe d'un défenseur numéro 1 de la Ligue nationale et de la trempe d'un gars, d'un défenseur de la East Coast League. J'en reviens pas, mais là, comme coach, c'est pour ça que je te pose la question. Là, étant donné que je me suis fait des ennemis en masse à Sainte-Marie-de-Beauce parce que Thomas Chabot vient de là, là, je te pose la question comme coach. Est-ce que Thomas Chabot, il est tellement utilisé qu'à un moment donné, son cerveau vient qu'à prendre des mauvaises décisions?
Moi, je le vois un peu différemment, dans le sens que le danger qui guette présentement les Sénateurs d'Ottawa, Dan, c'est le fait qu'ils n'ont rien à perdre.
Okay.
Personne s'attend à ce qu'ils gagnent des matchs. Personne s'attend à ce qu'ils fassent les séries. C'est que veux pas, tu triches, Dan. Tu triches, tu prends des chances. Hier, là, un point à Montréal, tout le monde rembarque dans l'autobus, s'en va à Ottawa. À Ottawa, il y a quasiment une parade, là.
Okay.
Ils ont battu Boston cette semaine, battu Canadien, annulé contre Canadien, ramassé un point en tirant de l'arrière 2-0. La vie est belle. Le coach de la Ligue nationale, présentement, qui a le moins de pression, là, c'est le coach d'Ottawa.
Okay.
Ces équipes-là, là, les spécialistes les plaçaient 32 sur 31 équipes là, ouais, au classement général.
Ouais.
Ce qui fait en sorte qu'à chaque fois, puis ils jouent bien, là, ils sont sur la job, puis ils sont prometteurs. Sauf que le danger présentement, avec un Thomas Chabot ou n'importe quel autre jeune, c'est que présentement, tu joues pas de pression, c'est que tu peux te permettre de tricher parce qu'on va moins te remettre sur le nez tes erreurs, parce qu'au bout de la ligne, t'as pas une obligation de gagner à tous les matchs. Tu vas me dire, Eric, voyons donc, un joueur professionnel, ça a l'obligation de gagner à tous les matchs. Oui, mais il y a rien de dramatique si au bout de la ligne, t'as pas fini très haut dans le classement, parce qu'il y a aucune attente pour cette équipe-là. Ça fait quoi? Ça fait que tu triches. Ça fait que tu prends des mauvais plis. Ça fait en sorte que tu peux faire des choses que tu ferais pas dans un système bien cadré où à chaque soir, c'est un match do or die puis un match de 4 points qui va faire un impact majeur au classement. Je te donne des exemples. C'était quand la meilleure saison de Galchenyuk et de Canadien? C'était l'année que le Canadien allait nulle part, qui était éliminé à Noël. Il s'est mis à tricher puis à partir en attaque. Il n'a jamais autant produit. Je me pose la question, Ottawa. C'est drôle, tu me parles de ça, là, j'ai l'air de m'emporter, là, mais tu me parles de Duclair à Ottawa. Oui. À mon avis, pourquoi qu'il va si bien,
oui,
c'est qu'il n'a pas tellement à se préoccuper de la victoire et de la défaite.
Okay.
Quand est-ce que Hudon a eu sa meilleure saison, le Canadien? Demi-saison, il y a 2 ans, parce que le Canadien était déjà éliminé. Des joueurs offensifs, de même, qui peuvent tricher d'une équipe qui n'a plus rien à perdre, d'une équipe que ça compte pas tous les soirs parce que ça n'a pas un impact direct sur le classement. Tu vas voir des joueurs prendre des mauvais plis, puis des joueurs qui vont prendre des mauvaises habitudes qui, au bout de la ligne, vont être durs à corriger. C'est pour ça qu'avec Thomas Chabot, il est tellement bon, là. C'est, il n'a pas eu beaucoup
bons
à son âge.
Il est vraiment bon, sérieusement, là.
Ça n'a aucun sens. Aucun. Je pensais même pas qu'il était aussi bon.
Mais moi, je prends juste la séquence.
Non, je l'ai vu avec l'équipe Canada Junior.
Oui.
Je pensais pas qu'il était aussi bon que ça. C'est incroyable, mais là...
Mais Eric, tu comprends, tu comprends mon point. Moi, je prends juste la séquence en prolongation. Je suis pas en train de dire que Thomas Chabot, c'est un jambon. J'ai jamais dit ça de ma vie, puis jamais je vais dire ça. Il est vraiment dominant. Il est vraiment dominant.
Il est super dominant, sauf que joindre une équipe qui n'a rien à perdre, il prend plus de chances.
Okay,
oui, ça te rapporte des statistiques, ça te rapporte des jeux à l'emporte-pièce, mais d'un club serré qui joue la première place, puis qui joue dans les séries, il se ferait taper ses doigts, puis recadrer, dirait, hey, mais c'est un gars assez intelligent, talentueux, qui jouerait là. Il est capable de plus tricher présentement parce qu'il joue à Ottawa, puis à Ottawa, il n'y a aucune attente.
OK, 2 congédiements d'entraîneurs cette semaine. Les Stars avec Jim Montgomery, puis les Sharks hier soir avec Peter DeBoer. Jim Montgomery, on ne commentera pas beaucoup, là. C'est un comportement inapproprié, puis les propriétaires ont dit ça respecte pas les valeurs de l'équipe. Ma question que j'ai pour toi, par contre, concernant les Stars, c'est Rick Bowness qui prend l'intérim. C'est un gars d'expérience, c'est un gars qui en a vu d'autres. C'est probablement le gars qui a le plus d'expérience dans la Ligue actuellement avec les Quenneville, Vigneault et compagnie. Est-ce que dans le vestiaire des Stars, tu t'attends à une bonne fin de saison ou tu t'attends à voir des joueurs un peu mêlés avec ce qui vient d'arriver là?
Prenons le cas du gars de Calgary et du gars de Dallas. Si tu vas lire les journaux des semaines depuis le début de la saison, des semaines précédentes, puis ce qui se passait, ce qui vient d'arriver là, au niveau hors glace, fait en sorte que le gars de Calgary n'est plus là, le gars de Dallas n'est plus là. Mais c'est-tu drôle, ces deux coachs quand même à qui on a, le nom avait commencé à circuler qui serait peut-être congédié à un moment donné, que leur club allait pas bien. Là, Dallas s'était replacé, là. Mais si tu
Calgary
recherches...
Calgary va bien depuis qu'il est plus là.
Oui, mais autant Calgary qu'à Dallas, Dallas s'était replacé, mais ils ont eu un départ atroce. Il y avait déjà eu rumeur que les coachs soient tassés.
Okay.
Je pense que le fait qu'il est arrivé ces événements-là ont encore plus facilité de travail aux entraîneurs, aux directions de peut-être congédier le coach. À Calgary, tu vas me dire, il a démissionné.
Mais
c'est une démission forcée.
C'est
là.
Ça, exact.
On se comptera pas de peur. Ouais. Là. C'est au bout de la ligne, ces deux clubs-là, on en avait déjà parlé dans le début de saison qu'ils allaient pas bien, que le poste pouvait être en danger. San Jose, même chose, on en avait parlé que ce club-là pouvait être en danger. Ils ont pris une décision hockey. C'est que dans le contexte actuel, oui, il y a eu des affaires hors glace, mais tu te poses la question, c'est peut-être des décisions, un mélange de décisions hockey aussi, puis on les passe au complet sur une décision. Parce qu'à Calgary, le club s'est mis à gagner.
Ouais.
Rick Bowness a tellement d'expérience, j'ai vu des séquences hier du match de Dallas. Moi, je pense que Bowness fait l'unanimité, parce que moi, j'ai tellement, de la part d'Alain Vigneault, j'ai tellement entendu parler en bien de Rick Bowness que face aux joueurs, c'est plus qu'un adjoint Bowness. Okay. C'est un gars qui a beaucoup le respect. Parce que je pense qu'il a même dépassé le nombre de matchs de Bowman. Là, c'est le gars qui a le plus de matchs. Il fait longtemps qu'il est là, lui-là. Oui. Là. C'est que lui, il a déjà le respect des joueurs. C'est que moi, je pense qu'à Dallas, surtout qu'il y a un club avec beaucoup de vétérans, c'est un gars qui est très humain, semble-t-il. Je ne serais pas surpris de voir Dallas continuer sur une super bonne lancée.
Okay.
Calgary, on le connaissait pas. Calgary, on le connaissait pas. Moi, je le connaissais pour avoir coaché contre lui parce que c'était l'ancien adjoint Claude Julien, puis il était avec quand il coachait Hamilton, puis je coachais Citadel.
Okay.
C'est que c'était un Jeff super Ward, bon gars. On l'avait jamais vu comme entraîneur-chef.
Ouais.
Mais c'est un début de carrière rêvé, ça. Tu coaches tes 5 premières, t'as 5-0, là. Pour dire que le souper à la maison, quand t'arrives, là, c'est sûr que ça déboule vite, là. Mais il y a une lune de miel assez importante. Puis je te dirais que c'est rafraîchissant de voir ça. Puis c'est le fun de les voir gagner, là.
On est au 12 décembre. Il y a eu 5 congédiements cette année, mais ça a été une situation particulière.
Oui.
Pardon, avec les comportements inappropriés. Mais l'année dernière, excusez-moi, il y en avait eu 7 au total de la saison. Est-ce que Wilson a été sévère avec Peter DeBoer?
Je pense que ça faisait trop longtemps qu'on entendait parler, Dan, de... Il y a eu un très, très, très mauvais début de saison. Club vieillissant, tu sais, ça fait combien d'années qu'on entend que ça n'osait, ça devrait être leur année, puis ils n'ont pas le choix. Puis la fameuse fenêtre d'opportunité qui disparaît, puis qu'on rassaye, puis on a ramené des vétérans comme Marleau, puis ainsi de suite. C'est que je pense que le club, pour les avoir vus une couple de fois cette année, jouait sans vie. Le club jouait avec moins d'émotion. Puis, il avait repris un sursis parce que l'équipe s'est terminée à gagner un peu.
Okay.
Je pense qu'il a été rattrapé par son terrible début de saison qui a fait en sorte qu'il savait que ça lui prenait une année quasi parfaite parce que ça n'avait pas été parfait l'an passé. Puis le coach, la direction avait décidé de le laisser derrière le banc. C'est quand la direction décide de te laisser derrière le banc, c'est sûr qu'il faut que tu aies une bonne... T'as pas trop droit à l'erreur l'année d'après. Après un début de saison atroce, il s'était replacé, mais là, ça semblait commencer à redescendre. C'est que c'est pas une grosse surprise, parce que s'il y a un endroit qu'on la voyait venir, on parlait souvent de New Jersey, on parlait d'eux autres.
Ouais.
À un moment donné, on parlait de Minnesota, puis là, ça s'est replacé.
Ouais.
Mais au bout de la ligne, là, c'est pas... Je pense pas qu'il y a personne qui est tombé en bas de sa chaise. Je dis pas qu'ils faisaient pas un bon travail, mais eux autres, ils ont voulu créer un électrochoc, parce que là, le temps commence à manquer. Là.
OK. Dernier point sur lequel je veux m'arrêter, le temps file, là. T'auras pas beaucoup de temps pour répondre, mais je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, puis on pourra peut-être développer une autre semaine, si tu me permets, mais c'est le gros challenge CCM au Saguenay en fin de semaine pour les équipes Midget 3. Au total, il y a 24 formations qui sont là, avec des équipes des Maritimes et tout. Hier, j'ai eu en entrevue les deux entraîneurs de la région, Frédéric Parent du SSF et Éric Bélanger des Chevaliers. Je voulais pas les mettre dans la barre, fait que c'est pour ça que je te pose la question à toi. On dit que la Ligue de hockey Midget 3, c'est une ligue de développement, mais à chaque fois que j'y vais, je vois des jeunes qui embarquent quasiment pas sur la patinoire. Pourtant, ils payent le même prix que leurs coéquipiers. Mais c'est une ligue de développement. Moi, j'adore ça, le Midget 3. J'ai toujours dit que c'est un très bon calibre de hockey. Depuis que j'ai 15 ans que je vais à l'aréna de Sainte-Foy, voir à l'époque, ça s'appelait les gouverneurs. Est-ce que la ligue de hockey Midget 3 perd un peu de son nom quand il y a des jeunes qui jouent quasiment pas dans ces équipes-là? Puis je parle pas des équipes de la région simplement. Je parle en général dans les dernières années, peu importe l'équipe, là.
Mais elle ne perd pas son nom parce qu'elle reste une ligue de développement.
Okay.
C'est la meilleure ligue pour préparer les jeunes à la Ligue junior majeure du Québec. C'est que ça, je pense pas qu'elle perd son nom. C'est certaines organisations qui respectent pas le nom que la Ligue a à se donner. Le fameux quatrième trio, puis c'est pas la première fois qu'on s'en parle, c'est certain que dans le Midget 3A, oui, les deux premiers trios vont toujours jouer plus que le troisième puis surtout le quatrième trio. Mais au bout de la ligne, avec le nombre de matchs puis le nombre d'entraînements, ça reste une ligue de développement.
OK, mais le coach, Éric...
Le coach, c'est à lui d'être intelligent. Faut qu'il joue son monde.
Mais le coach, il veut monter. Lui, il veut monter puis il veut être repêché junior aussi. Et comme bien d'autres, il veut pas passer sa vie dans le Midget 3. Moi, je pense que ça pourrait être une ligue de développement si les 15 entraîneurs acceptaient de faire ça, mettons, avec la même équipe pendant 10 ans. Tu comprends mon principe derrière ça?
Oui, sauf qu'un coach, tu sais, l'an passé, Turcotte à Lévis a tout gagné. Il s'est pas trouvé un poste d'entraîneur-chef cette année, là. Il est retourné dans le junior, dans un poste d'adjoint.
Oui.
Prends le junior major, là. Va voir les directeurs gérants. Demande-leur de faire un classement des futurs prospects coach Midget 3 qui vont monter dans le junior major.
Oui.
Et dans leur liste, là, tu vas être surpris. C'est pas nécessairement ceux qui ont gagné puis ceux qui gagnent qui ont le plus de chances de monter dans le junior majeur.
Okay.
Ça, faut que les coachs Midget 3 le comprennent. Ils seront pas évalués. As-tu gagné? As-tu perdu? As-tu passé dans le Midget? As-tu gagné le championnat? Non. Si tu veux monter en haut, faut que tu montes plus que ça. T'as la prestance, ta façon de te comporter avec les joueurs, la façon de communiquer, ta façon de les développer. Et ça, les clubs juniors ont une assez bonne évaluation du groupe d'entraîneurs Midget 3. Et ça, faut le faire comprendre aux entraîneurs Midget. Puis le bon coach, inquiète-toi pas, il va monter. C'est qu'au bout de la ligne, là, fais jouer tes joueurs, surtout Midget 3, mais ça se peut qu'il y en ait qui jouent moins que d'autres, mais il devrait pas en avoir qui jouent pas pantoute, par exemple.
Je comprends.
Tu peux pas t'asseoir puis te faire jouer les pieds pendant une game de temps dans le Midget 3.
Exact.
Faut que t'aies fait jouer, puis il y a moyen de faire jouer tout le monde. Si le Canadien a joué son sixième défenseur, il y aurait 6 minutes à jouer, mais le Midget 3 doit être capable de jouer ses défenseurs.
C'est le mot de la fin. Gros merci, Éric.
Salut, Dan. Merci.
Bonne soirée à toi. Éric Lavigne, le coin du coach, chaque jeudi, dans l'avant-match.